vous suit.
Voici les titres du journal.
242, c'est le nombre de familles que l'association Enfance et Maladies Orphelines a pu aider depuis sa création en 2004. Coup de projecteur sur cette association montézanne dans ce journal. Boulangers, pâtissiers et autres confiseurs ressentent fortement la hausse des coûts de l'énergie et désormais des matières premières. Et puis en fin de journal, dans notre page sport, vous découvrirez Olivier Comadi, un sportif français spécialisé dans le stand-up paddle de compétition. Et il est notamment champion de Suisse 2022 dans sa catégorie.
Du soleil pour cet après-midi, tout comme demain, avant le retour du mauvais temps pour dimanche. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Léa Journeau. Bonjour Léa.
Bonjour Axel, bonjour à tous. Le budget santé des enfants atteints d'une maladie rare est 4 fois supérieur à la moyenne. C'est ce que révèle l'AEMO, l'association Enfance et Maladies Orphelines. Basée à Monthey depuis 2004, elle collecte des fonds auprès de particuliers ou des entreprises avec un objectif, celui d'alléger le budget des familles concernées par la maladie. Elle prend ainsi à sa charge des frais non couverts par l'assurance. Mais l'association n'intervient toutefois pas seulement sur le plan financier. Écoutez les précisions du directeur Olivier Meyer.
On intervient sur le plan moral parce que effectivement, une maladie rare, par définition, concerne peu de monde et on est souvent un petit peu isolé. Il y a par exemple en Suisse des maladies où il y a seulement quelques personnes qui sont concernées et puis évidemment, on vit dans une certaine incompréhension, parfois solitude, parfois il n'y a pas de diagnostic avec les maladies rares, c'est toute une des problématiques, c'est qu'on ne sait pas de quoi l'enfant souffre. Et donc on intervient là pour justement expliquer, soulager, mettre en lien, trouver des solutions. Donc ça c'est un premier point. Il y a le point financier évidemment, on vient aussi donner de l'argent à ces familles. Et puis il y a le volet très important, c'est le volet thérapeutique, parce que même si une maladie orpheline par définition ne propose pas de traitement, on ne peut pas guérir d'une maladie orpheline, en revanche on peut proposer des thérapies qui vont faciliter la vie des enfants, qui vont permettre d'accroître leur autonomie, qui vont permettre de faire des progrès, on peut faire marcher des enfants qui a priori n'étaient pas destinés à marcher. Donc il y a tout un volet thérapeutique qui coûte bien sûr aussi assez cher et là encore on intervient sur ce volet-là.
Olivier Meyer, interrogé par Julie Gay, à ce jour AEMO a pu venir en aide à 242 familles ainsi qu'à diverses associations et fondations en lien avec ces maladies.
Certains artisans ont vu leur facture d'électricité plus que tripler ces derniers mois.
N'est rien de tel que des croissants encore tièdes au petit déjeuner. Pourtant, ceux qui les fabriquent ont vu leur charge prendre l'ascenseur. À la hausse des prix de l'énergie s'ajoute celle des matières premières dont les cours évoluent même fortement de semaine en semaine. Une donnée supplémentaire à gérer pour ces professionnels pourtant déjà au four et au moulin. Catherine Edinger-Monnet, patronne des confiseries Edinger à Aigle et à Monthey.
On a eu quand même des mois chargés avec les fêtes. On a encore les rois qui sont là. On a aussi le problème du recrutement de personnel, ce qui fait que des fois, on doit aller au plus vite et puis faire un peu d'autres postes qu'on a habituellement pour pallier au manque de personnel. C'est pas évident parce qu'il faudrait être au four et au moulin. C'est pour ça que pour le moment, j'ai encore pas tous les chiffres en tête, mais on va étudier ça de près pendant ce mois de janvier.
Et certains ont eu plus de temps pour analyser la situation. C'est le cas des 3 associés de la Boulantine qui a ouvert ses portes il y a 1 mois et demi à Trois-Torrents. L'un d'entre eux, Christophe Delassalle, décrit comment leur commerce s'est adapté à la situation actuelle.
Il y a 2-3 solutions qu'on a essayé de trouver. On a calculé un peu depuis 1 mois les jours un peu creux de la boulangerie où on a fermé. Et puis on travaille beaucoup de nuit, comme ça on peut allumer tout ce qui est pétrin et four la nuit. Là, on peut économiser sur l'énergie. On a quand même dû augmenter par rapport au prix de l'année passée sur plusieurs autres boulangeries. On est déjà un peu plus élevé, mais cette année, il n'y aura pas d'autre augmentation à la Boulantine. C'est déjà tout calculé pour que ça tourne.
Et le prix du pain devrait donc encore augmenter en 2023. Les artisans attendent de la compréhension de la part des consommateurs. On retrouve Catherine Edinger-Monnet.
Ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'il y ait une compréhension de notre clientèle, qui puissent nous suivre, même si on doit un peu augmenter nos prix, et puis qu'ils soient toujours conscients de la qualité de la marchandise, du service qu'on peut leur offrir, qu'ils nous soutiennent. En fait, on en revient un peu comme dans la période Covid. Soutenez vos boulangeries de quartier, les confiseurs et les petits commerçants qui se trouvent assommés par ces sommes astronomiques qu'on doit payer pour l'énergie.
La situation est donc compliquée et dans le milieu, on souhaiterait surtout pouvoir sortir rapidement du pétrin. Un sujet préparé par Bertrand Girard.
2023 marque les 300 ans de la mort du major Davel.
Tout au long de l'année, diverses activités et événements rendront hommage à cette figure historique vaudoise, exécutée le 24 avril 1723 après s'être rebellée contre le joug bernois. Et parmi les temps forts de 2023 figure une exposition dans les locaux des archives cantonales qui sera présentée le 24 janvier. Et dès le 29 janvier, l'Opéra de Lausanne présentera le spectacle Davel. La situation migratoire préoccupe l'Union démocratique du Centre en ce début d'année. L'UDC veut renforcer les contrôles aux frontières et limiter l'accueil des requérants d'asile. Elle exige aussi l'abandon du statut S pour les personnes arrivant d'Ukraine. Les précisions de Michael Buffa, conseiller national UDC du canton de Vaud.
On a eu la grosse masse de personnes qui sont arrivées, environ 70 000 personnes jusqu'à cet automne. Mais on voit que maintenant, ça a ralenti un peu les personnes provenant d'Ukraine. Puis alors, on peut revenir maintenant à la façon de les traiter normale pour les nouveaux arrivants. Il faut aussi qu'on limite la traite d'asile pour les personnes en dehors de l'Ukraine. On voit que cette année, c'est 120 000 personnes depuis l'Ukraine. On a 20 000 d'autres pays. Plus les 100 000 personnes qui viennent avec la liste de 6 personnes, on voit qu'on est à bout de souffle. Les cantons, ils n'arrivent plus à absorber non plus les nouveaux requérants qui doivent loger. On est dans une situation vraiment très compliquée.
Si les personnes qui fuient l'Ukraine n'ont plus le statut S, mais rentrent dans un statut, une procédure d'asile normale, on ne pourra quand même pas les renvoyer actuellement, vu la situation de l'Ukraine. Est-ce que vous pensez qu'il y a certaines personnes qu'il faudrait finalement quand même renvoyer en Ukraine?
Alors c'est clair, les personnes qui proviennent de zones au conflit d'Ukraine ne peuvent pas être renvoyées, puis ce n'est pas le but de les renvoyer. Par contre, c'est vrai que les personnes qui viennent de zones où il n'y a pas forcément de conflit en Ukraine, alors ces personnes-là, elles peuvent retourner dans ces zones-là. D'ailleurs, il y a beaucoup de requérants qui sont venus et qui sont déjà repartis en Ukraine.
Des propos recueillis par notre correspondante parlementaire Marie Vuillemier. Le Conseil fédéral a décidé de prolonger le statut S pour les réfugiés ukrainiens jusqu'en 2024. L'UDC demande donc de limiter son application aux personnes de nationalité ukrainienne en provenance de zones de guerre. Et puis, le cessez-le-feu décrété unilatéralement par le président russe Vladimir Poutine en Ukraine à l'occasion du Noël orthodoxe est censé avoir commencé aujourd'hui à midi, heure de Moscou. Et pourtant, les tirs d'artillerie se poursuivent des deux côtés du front à Bakhmout, l'épicentre des combats dans l'est de l'Ukraine. Ce sont des journalistes de l'AFP qui ont fait cette constatation aujourd'hui. Mais leur intensité était toutefois moindre par rapport aux jours précédents, toujours selon l'AFP. On passe au sport en tennis. Leandro Riedi, matricule 157 à l'ATP, disputera demain la finale du Challenger de Canberra. Il s'agira d'une troisième finale consécutive pour le Zurichois, désormais invaincu en 16 rencontres. Dans la capitale australienne, Leandro Riedi a validé son ticket pour la finale en battant l'Allemand Jan Lennard Struff 7-6, 5-7, 6-2. Son adversaire en finale sera le Hongrois Martin Fucsovics, vainqueur de l'édition 2018 du Geneva Open.
Malgré les douces températures, l'hiver est pourtant bien présent.
Et les pratiquants des sports aquatiques le savent bien, c'est une période plutôt calme. C'est le cas d'Olivier Comazzi. Ce Français d'origine s'est installé dans le Chablais il y a 7 ans et son arrivée dans notre région a coïncidé avec le début de sa carrière dans le stand-up paddle. Cette discipline qui consiste à ramer debout sur une grande planche de surf à le vent en poupe pour ce qui concerne son aspect ludique. Mais il existe aussi une branche compétitive et c'est celle qu'a choisi Olivier Comazzi, champion de France dans sa catégorie en 2019. Il s'est également illustré dans son pays d'accueil en remportant cette année le titre de champion suisse. Ludovic Turin l'a contacté par Skype afin d'en savoir plus sur lui. Olivier Comazzi.
Bonjour Radio Chablais. Effectivement, je suis français de Lorraine, près du Luxembourg. Il y a une quinzaine d'années, je venais en vacances aux Portes du Soleil, hiver comme été, pour le vélo d'Enil et puis pour le snowboard l'hiver. Et je suis tombé amoureux de cette région. Quand j'ai eu l'occasion, j'ai cherché du travail dans cette région pour m'y installer.
Dès votre arrivée dans le Chablais, il y a eu tout de suite un attrait pour le paddle. Vous avez rejoint le club de paddle de Sion, notamment. Racontez-nous un petit peu cette période.
Quand je suis arrivé en Suisse, je venais juste de m'acheter ma première planche gonflable pour faire du paddle un petit peu en dilettante, comme ça, aller un petit peu sur l'eau pour me promener. Et j'ai rencontré donc Nick Crétenant, le président du club de Sion. Avec lui, l'activité s'est orientée vers le sport fitness, voire même la compétition. Et c'est lui qui m'a aidé à trouver mes premières planches de compétition. Et puis c'est lui qui m'a emmené sur les premières compétitions en Suisse et en France.
On parle de compétition, Olivier Comazzi. Il y a plusieurs critères dans la compétition du stand-up paddle. Ça veut dire qu'il y a plusieurs sous-disciplines, sous-branches au niveau compétition. Racontez-nous un petit peu ce qu'on peut retrouver sur le plan compétitif.
Alors déjà, les deux grandes familles, c'est le paddle surf et le paddle race. Donc le paddle surf, comme son nom l'indique, c'est un tout petit paddle proche d'une planche de surf sur lequel on a une pagaie pour surfer les vagues, alors que le paddle race, c'est des longues planches qui ressemblent presque à des kayaks très fines. C'est souvent sur des plans d'eau, des courtes distances, quoi. Dans le paddle race, il y a plusieurs sous-catégories encore, les technical race, la longue distance, les choses comme ça.
À titre personnel, Olivier Camozzi, vous avez remporté bon nombre de titres, notamment champion de France en 2019 dans votre catégorie d'âge. Vous êtes aussi l'actuel champion suisse 2022, vous me corrigez si je me trompe. Ça fait beaucoup de titres, ça fait beaucoup de récompenses. Comment vous voyez un petit peu votre parcours sur le plan compétition ?
J'avais pas spécialement de but ou d'objectif prévu. Je voulais toujours faire de mon mieux. Et petit à petit, de compétition en compétition, j'ai vu que je pouvais prétendre à ces titres et j'ai fait le test, quoi.
En préparant l'interview, j'ai pu voir qu'effectivement, bon nombre d'athlètes continuaient de s'entraîner, même l'hiver, en tout cas sur les plans d'eau qu'on a à disposition. Justement, des températures qui chutent, c'est plus vraiment la période pour aller se baigner finalement dans ces gouilles qui sont effectivement très prisées l'été. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a cette température-là ? Est-ce qu'on va quand même dans l'eau froide ?
On y va aussi l'hiver, effectivement. Donc, c'est avec des combinaisons néoprènes, des choses comme ça. Ou alors, si on est sûr de soi, qu'on est sûr de ne pas tomber, on s'habille comme si on allait courir un footing, le même genre de tenue vestimentaire. Maintenant, quand je fais de la longue distance et que je vais sur le Léman, où il y a plus ou moins des vagues pendant l'hiver avec du vent, où il y a des risques de tomber dans l'eau, là, je suis plutôt en combinaison néoprène. On pratique toute l'année, oui.
La dernière question que je voulais vous poser, Olivier Camozzi, comment est-ce qu'on voit cette année 2023 pour vous ? Comment est-ce qu'on peut vous la souhaiter ? Est-ce que d'autres titres sont dans votre ligne de mire ?
Alors, cette année, j'ai décidé de participer et au championnat de France et au championnat de Suisse. Et surtout, ça va être pour novembre 2023, participer au championnat du monde qui seront en Thaïlande à Pattaya.
C'était une interview réalisée par Ludovic Turin.
L'actu en continu sur radiochablais.ca.